Julien, je suis ton père.
Non.
Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors, on te souhaite que la force mentale soit avec toi.
Exactement, bienvenue à toi. Comme d'habitude, on t'invite tout de suite à liker, commenter, partager les podcasts que tu as peut-être déjà entendus jusque-là. Et puis surtout de t'abonner et de partager la bonne parole autour de toi pour nous aider eh bien, à accomplir cette mission qu'on s'est donnée avec Samir à l'Institut, qui est de faire en sorte de responsabiliser les individus le plus possible et de les accompagner à travers la formation de super coachs qui vont justement aider eh bien, les autres à progresser dans leurs projets, dans leurs envies et dans leur transformation personnelle. Aujourd'hui, Samir, un nouveau podcast avec ce titre « Que la force mentale soit avec toi ».
Exact.
Alors, on va pas se parler de Star Wars, même si on a fait peut-être quelques petits effets un peu amusants sur le sujet. Mais ici, on se parle vraiment de l'importance de développer un mental d'acier. Parce que, bah, même si les temps sont bien plus faciles que ce qu'ils étaient il y a quelques siècles en arrière, il n'empêche qu'on est quand même assailli par beaucoup de choses, que ce soit des informations, des relations toxiques, des personnes, en fait, qui parfois envahissent notre espace personnel, alors qu'on n'a rien demandé, des événements qu'on n'a pas demandé non plus, qui nous tombe dessus, et que sans cette force mentale, eh bien, il va être très difficile de pouvoir avancer comme on le souhaite.
Exactement. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que à un moment ou l'autre, Julien, on va faire cette distinction entre résilience, point qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, et
tout à fait.
Force mentale, ou qu'on peut voir même comme mental d'acier. Parce que c'est deux choses qui sont complémentaires, d'accord ? Si on les additionne, ça peut faire encore plus de choses que la résilience elle-même seule, d'accord ? Mais vraiment de t'amener un élément supplémentaire, un peu comme si, tu sais, on avait un Lego. La résilience, c'est peut-être la base et on va venir éclipser d'autres choses. On a déjà parlé justement, Julien, de l'antifragilité. Bah, en fait, la force mentale, c'est quelque chose qui va venir comme se clipser à toutes ces choses qu'on a déjà abordées par le passé.
Exactement. Et justement ici, on va s'arrêter entre autres sur des travaux qui ont été menés par Doug Strykarczyk et justement ses collaborateurs. Et on va vraiment se concentrer sur le modèle des 4 C, donc qui représente en anglais le Control, Commitment, Confidence and Challenge. Donc on va aller explorer ces différents points-là. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, je pense à travers ce podcast, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des leviers et il y a des attitudes qui vont te permettre de développer ta force mentale. Et on va voir comment faire justement la distinction des éléments sur lesquels on doit porter notre attention, des éléments sur lesquels on doit prendre de la distance. Et si on applique ça à chacun, chacune dans notre quotidien, de plus en plus sur la durée, eh bien forcément, notre mental va se renforcer, va se développer, et il sera plus facile de traverser les moments qui habituellement nous challenge énormément et nous freine dans la progression vers nos objectifs, nos envies. Donc on va vraiment s'intéresser aujourd'hui à un des éléments qui vient composer eh bien, les stratégies qui nous permettent d'accéder à cette fameuse systémique du bonheur dont on parle dans notre podcast depuis le tout premier épisode.
Ouais, exactement. Et tu sais, on t'a déjà parlé justement, peut-être de définir maintenant ce que j'ai dit là, cette petite différence. Et c'est que la résilience, on avait dit que c'était la capacité à rebondir justement face aux épreuves. Rebondir et trouver justement une nouvelle possibilité, une nouvelle voie pour pouvoir comme avancer, pour pouvoir transformer ce qu'on est en train de vivre. Le truc, c'est que derrière, on a parlé tout à l'heure aussi de force mentale ou de mental d'acier. En fait, ce mental d'acier, c'est la capacité à faire face aux exigences des difficultés, de l'entraînement, de la compétition, de notre style de vie, de plein de choses comme ça, tout en restant constant, attentif, et de faire face à cette pression, mais de continuer d'avancer. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette force mentale, elle va te permettre d'avoir de la constance. Tu vois, c'est bien beau d'être fort de façon cyclique, c'est super, tu vois, d'être résilient. Mais par contre, quand tu es dans la constance, tu es dans une évolution qui est perpétuelle. Et du coup, bah, tu te renforces et tu grandis constamment, jour après jour. C'est comme un petit peu ce principe de 1% par jour. Si tu es dans cette constance, tu te renforces de 1% par jour.
Ouais, exactement. Et puis, le truc, c'est que en développant cette force mentale, L'avantage, bah, c'est que tu augmentes ton estime, tu augmentes ton optimisme face aux situations.
Ouais.
Tu as un sentiment, alors en anglais, c'est self-efficacy, donc de reconnaissance en fait de ta propre efficacité, de tes propres capacités. Ça diminue ton anxiété et en plus, ça augmente ta satisfaction au niveau de ta vie de manière générale. Tu as une augmentation de ton ressenti de satisfaction. Donc la force mentale qui se développe, c'est pas juste je maîtrise toutes mes émotions puis je les exprime plus, je deviens insensible à ce qui se passe autour de moi, je suis fort en toutes circonstances. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, si tu pars dans cette direction-là ou que tu as déjà tenté d'aller dans cette direction-là, ben la seule chose que tu fais, c'est de fragiliser justement ton propre équilibre et de fragiliser ton mental qui risque en fait à tout moment de te lâcher parce que t'as pas processé tous les éléments qui étaient nécessaires justement pour aller de l'avant. Donc on va aller faire un petit tour finalement sur les composantes clés et vraiment si tu veux en apprendre plus, encore une fois, tu peux même aller chercher les ouvrages que Doug Strykhartzik a pu écrire justement.
C'est difficile de le dire.
Qu'il a... Bah, c'est difficile de le dire parce que je pense que ça doit être un nom peut-être du côté tchèque ou autre.
Ouais.
Ça a l'air d'être pas mal dans cette consonance-là. Et c'est vrai que c'est pas des prononciations, mais c'est un peu comme si je me décidais de parler en arabe moi aujourd'hui et moi j'ai bouffé la moitié des mots parce qu'il y a des prononciations que je sais pas faire. il manque des organes dans ma gorge, il y a des trucs qui marchent pas.
C'est ça. Ça me rappelle justement à l'époque, tu sais, quand j'étais lycéen, un professeur qui avait un prénom comme ça de ce coin-là et on avait mm-hmm. beaucoup de mal à le prononcer parce que il y avait pas de consonne. Donc en fait, on savait pas s'il fallait, tu vois, on savait pas. C'était difficile.
Oui, c'est
pour
ça.
Nous.
C'est un peu difficile pour, bah, quand on n'a pas, tu sais, de la langue d'origine. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ça n'empêche qu'il a écrit des choses très intéressantes et que ça vaut vraiment le
bien
coup
sûr,
d'aller,
bien sûr.
d'aller découvrir son travail. Donc, on a fait un choix volontaire pour aussi limiter la durée de ce podcast parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer vraiment encore beaucoup de temps. Mais on va vraiment se concentrer sur le modèle des 4 C. Donc c'est sûr que en version française, bah les 4 C ils vont disparaître, il n'y en aura plus 4.
C'est ça.
Mais il y en aura au moins 3 sur les 4, il y en a un qui va qui va changer. Mais le premier avec lequel j'ai envie de commencer, c'est la notion de contrôle. Et de vraiment faire une distinction entre les deux types de contrôle qu'il peut y avoir. Souvent à l'institut, on amène cette idée et elle vient pas de nous, techniquement, puisqu'elle remonte même à la Grèce antique, en termes de philosophie à appliquer, c'est que il y a des choses dans la vie sur lesquelles on a du contrôle et d'autres sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et en fait, dans le modèle qui est proposé, des 4C, c'est que la notion de contrôle, elle est déjà vue tout d'abord sur le fait que t'as un contrôle sur ta vie, mais le contrôle sur ta vie, il a une certaine limite. Tu vas pouvoir contrôler des choses, tu vas pouvoir contrôler la direction dans laquelle tu t'en vas, tu vas pouvoir contrôler les décisions que tu vas prendre, tu vas pouvoir contrôler tout un tas de choses. Et peut-être, plus que de parler de contrôle, j'ai presque même envie de dire, c'est plus une notion de maîtrise. Maîtriser tes décisions, maîtriser ton engagement, maîtriser la direction dans laquelle tu décides d'aller, et en fait, sentir que t'es en maîtrise de ces points-là dans ta vie, ben en fait, ça t'aide à augmenter ta force mentale. Parce que du coup, t'es moins dans cette dynamique à te sentir victime, à te sentir dans « je subis mon environnement, je subis ce qui se passe autour de moi », parce que ben, j'ai du contrôle sur ce que j'ai envie de faire. Et j'écoutais, il y a pas très longtemps, une intervention qui avait été faite par Anthony Bourbon, peut-être que tu le connais, toi qui nous écoutes, c'est un investisseur français, c'est un entrepreneur français qui a largement réussi, et il avait fait une réflexion que j'ai trouvée super intéressante. Alors, après, est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas? Ça, c'est un choix. Mais de son point de vue, lui, ce qu'il disait, c'était, en fait, beaucoup de gens vont faire l'erreur de vouloir acheter leur propre bien immobilier, sauf que ça va les bloquer à l'endroit où ils ont acheté. Et ils sont bloqués pour les 10, 15, 20 prochaines années, sauf s'ils décident de vendre entre-temps. Et lui, ce qu'il proposait comme modèle, et c'est là aussi où tu prends conscience que tu peux avoir un différent niveau de maîtrise de ta vie, contrôle sur ta vie, en fonction des choix que tu fais. Et lui proposait une alternative en disant, oui, sur le papier, investir dans l'immobilier, pour toi, ça peut paraître intéressant parce que bah, cette fois-ci, tu verses plus d'argent pour quelqu'un d'autre. Bon, tu vas rembourser une grosse partie en frais de crédit, en taux d'intérêt. Mais tu te dis que tu mets de l'argent de côté pour toi, t'investis pour toi-même. Et lui, ce qu'il mettait en avant, c'est la perte de flexibilité que t'allais avoir. Parce que pour lui, et vraiment sa vision était intéressante, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, là où tu peux gagner le plus ta vie, c'est là où tu résides, c'est là où tu vis. Mais si jamais l'entreprise elle décide de partir ailleurs, si jamais il y a d'autres opportunités ailleurs, si jamais tu vois qu'il y a d'autres choses que tu peux faire dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, bah en fait parce que tu as cette attache, tu ne peux pas justement prendre cette décision-là, tu ne peux pas faire ce choix-là parce que ça te complique énormément. Donc en restant locataire, tu gagnes une certaine souplesse. Mais cette souplesse doit pas être contrebalancée par bah j'ai un petit boulot, puis je reste au même endroit et je décide de pas changer. Donc, tu sais, c'est vraiment voir qu'il y a des stratégies qui vont être bonnes à appliquer, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Mais c'est vraiment pour illustrer ce côté de contrôle sur ta vie, maîtrise sur ta vie, de en fonction de ce que tu vas décider, choisir des objectifs que tu vas te mettre, puis ça, on va s'en parler, bah tu vas pouvoir développer ce sentiment, justement, de maîtrise ou de contrôle sur cette partie-là. Et peut-être avant de te laisser le deuxième point de contrôle, Samir, juste rappeler ici que, encore une fois, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle du tout. On a zéro capacité d'influence et il faut savoir faire la distinction. Un petit peu comme cette philosophie qui est appliquée alors chez les alcooliques anonymes, mais pas que. Je crois que c'est même une prière, c'est d'avoir la force de contrôler ce qu'on peut, d'avoir la force de passer à travers ce qu'on peut pas contrôler. Et surtout d'avoir la force et l'intelligence de savoir faire la distinction entre les deux. Bah là, ça reprend ce principe. D'avoir cette intelligence de comprendre que tu as le pouvoir sur certaines choses, tu ne l'as pas sur d'autres, et que si tu sais faire la distinction entre les deux, bah nécessairement les événements, les situations sur lesquelles tu n'as pas de maîtrise auront un impact qui sera moins important. Parce que tu sauras faire ce pas de recul en disant « bah ça m'arrive, j'ai pas de pouvoir là-dessus ». Donc maintenant, sur quoi je me contrôle ? Sur quoi je me concentre ?
Ouais, exact. Et ça me fait penser justement à cette parole que tu as donnée, effectivement, celle de Marc Aurèle. C'est « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est vrai que je me suis intéressé aux travaux un petit peu, justement, qui sont, tu sais, justement, de... J'ai oublié le nom du livre, mais à une époque, j'avais lu effectivement ce livre-là qui était donné pour les personnes qui... était dans les alcooliques anonymes, mais d'autres, il est réutilisé pour les personnes qui sont dans les groupes de parole où il y a des dépendances aux anxiolytiques, où il y a des dépendances affectives, des dépendances aussi sexuelles, des choses comme ça. C'est vraiment utilisé dans tous ces groupes-là. En fait, ces travaux ont été modélisés et ils les réutilisent partout. Et je trouve que même toi qui nous écoutes, en tout cas, c'est un livre qui peut être intéressant à lire, même si tu n'es pas concerné par la problématique. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre là-dedans.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Et justement, juste pour parler rapidement du contrôle, j'aimerais ajouter quelque chose. Cette semaine, dans nos cours de praticien, alors dans les deux séances, c'est drôle, c'est dans les deux séances, on est en train de travailler sur le générateur de nouveaux comportements de Bendler et Grinder, et puis après le protocole de Diltz.
Ouais.
Et lorsque j'ai pratiqué avec les étudiants ces deux protocoles, bah, il y a deux choses qui sont ressorties. C'était drôle pour les deux personnes. Les deux personnes avaient un besoin de contrôle. Et ils se sont rendus compte, au fur et à mesure du protocole, des prises de conscience, des questionnements, qu'en fait, ils avaient plus de contrôle en lâchant prise sur la situation que en voulant contrôler tout ce qui se passe autour. Et il y a eu comme une espèce de libération émotionnelle et comme une reprise de pouvoir à ce moment-là. Et c'est là, en fait, ce que tu dis, ça résonne chez moi parce que cette semaine, on l'a vécu encore avec nos étudiants, là. Mais vraiment de comprendre que parfois, on veut avoir le contrôle sur des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont en dehors de notre contrôle, de notre pouvoir.
Tout à fait.
C'est au contraire, au moment où on va lâcher prise sur ces choses parce qu'on n'a pas de pouvoir dessus, pour poser des actions différentes qu'à ce moment-là, on va récupérer le contrôle. Et c'est difficile à comprendre quand on est dans, tu sais, quand on est trop près de l'éléphant, mais juste de comprendre qu'une fois que tu prends du recul comme ça, que tu prends de la hauteur, bah, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu voulais, bah, tu ne l'as pas. En fait, c'est en lâchant prise que tu vas justement avoir ce contrôle.
Ouais. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait eu cette prise de conscience-là et c'est un super partage.
Je t'en prie, Julien. Et du coup, l'autre point justement qu'on devait aborder, Julien, c'est celui du contrôle émotionnel. Donc ici, bah encore une fois, souvent les personnes qui vont vouloir contrôler leurs émotions vont être dans le raccourci de bah, « en fait, il faut pas que je parle de mes émotions, il faut que je les refoule, il faut pas que ça transparaisse ». Et c'est à ce moment-là que t'es vulnérable, en fait. Parce que tu le gardes à l'intérieur de toi, c'est en train de te bouffer. Et on le dit souvent, les émotions sont pas biodégradables. À un moment ou l'autre, ça va se cumuler, ça va exploser et tu vas avoir des résultats encore pires que ce que tu voulais éviter. D'accord? Tu voulais ne pas paraître vulnérable. Bah, le jour où tu vas exploser, crois-moi, c'est à ce moment-là où tu vas être hyper vulnérable. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi quelle est la solution là-dedans? Ben, du coup, ça va être d'apprendre à les exprimer, à les accepter, ces émotions, à les accueillir, à mettre des mots dessus.
Complètement.
Et c'est ça, si tu veux du contrôle sur tes émotions, ce qui va être important pour toi, ça va être d'apprendre à les gérer, à les exprimer, à les reconnaître. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir comme recycler tout ça, les extérioriser et retrouver ton pouvoir. Parce que quand tu es dans ce « je refoule », en fait, t'es constamment en train de porter un poids à l'intérieur de toi. Il est là et il ne part pas. Il est toujours là. Il est présent chaque jour. Et parfois, ça peut se ressentir au travers de douleurs psychosomatiques, des douleurs au dos, des mal de tête, des céphalées, des douleurs à l'estomac. Et toi, tu dis non, c'est bon, tu sais, je gère, je suis peut-être juste un peu malade. Non, en fait, c'est toutes ces émotions que tu refoules à l'intérieur de toi. Et ça peut être pire. Hein, d'accord.
Complètement.
Mais à partir du moment où t'as extériorisé, que t'en as parlé, c'est fini, c'est hors de toi, en fait. Et une fois, Julien, je sais pas si c'est vrai, d'accord, mais c'était il y a très longtemps, quand j'avais commencé à m'intéresser à tout ça, j'avais lu quelque chose qui m'avait marqué, en tout cas, ça m'a permis moi aussi de changer ma vie, mais je sais pas si c'est vrai ou faux, donc toi qui nous écoutes, ne prends pas ça comme une vérité, mais j'avais lu un truc qui m'avait permis de prendre conscience de quelque chose, c'était que toute émotion non exprimée et non extériorisée, encore une fois, quand on dit extérioriser, on te demande pas de péter un câble et de tout casser chez toi. Non, exprimer, extérioriser, c'est savoir les exprimer. Déjà, les reconnaître et les exprimer de la meilleure des façons, de façon empathique, en fait. Et en fait, c'est que ce que j'avais lu disait que toute émotion refoulée, non exprimée, à partir d'un certain nombre de jours que tu les gardes à l'intérieur de toi, ça finit comme s'imprimer, en fait, à l'intérieur de toi. Ça s'ancre profondément en fait à l'intérieur de toi et c'est encore plus difficile après pour pouvoir les sortir. Et je sais que quand j'avais lu ça, je me suis dit bah en fait maintenant j'ai plus envie de garder tout ça. Ça veut dire que si je les exprime pas, ça va rester. Moi je vais peut-être l'oublier, mais mon corps l'oubliera pas. Mais encore une fois, je sais pas si c'est vrai ce que j'avais lu, d'accord. Mais moi en tout cas, ça m'avait permis d'avoir une prise de conscience et de me dire bah écoute, à partir de maintenant, je ne refoule plus mes émotions.
Ouais, bah effectivement, je sais pas dans quelle mesure. La notion temporelle d'à partir d'un certain nombre de jours, ça va s'engrammer, parce que le terme c'est s'engrammer. Donc, je sais pas dans quelle mesure c'est effectivement ça qui va se produire en termes de timing, encore une fois. Mais c'est certain que ne pas exprimer tes émotions, boucler là-dessus, vouloir les garder intérieurement, bah, ça va pas aller de l'avant, quoi. Et ça va poser pas mal de problèmes. Donc, même si peut-être la notion de X jours n'est pas bonne ou n'est pas valide, tout le reste est quand même à considérer. Donc, tu peux, je pense, prendre ça comme une règle générale et juste garder en tête que si je reste avec une colère, une frustration, une tristesse, un dégoût, une déception trop longtemps dans le temps, ça va finir par s'engrammer et ça va finir par poser d'autres soucis.
Exactement. Exactement. Donc, je pense que Julien, en tout cas, j'ai fini par rapport à ce point-là. Mais s'il y a quelque chose à retenir par rapport à ce que j'ai dit, c'est un, apprendre à les reconnaître, ces émotions-là. Ça va te demander d'apprendre à développer une certaine intelligence émotionnelle aussi, de ouais. peut-être lire des livres, d'écouter nos podcasts. On en parle en tout cas dans pas mal de podcasts. De venir sur notre chaîne YouTube et regarder nos vidéos sur la gestion des émotions. Donc, on a partagé énormément de choses. Donc ça va être la première phase. Donc les reconnaître, les accepter, ne pas les refouler, d'accord. Ces émotions-là, ils méritent d'être pris à bras le corps. C'est que tu leur fasses un gros câlin parce qu'ils sont juste là pour t'exprimer quelque chose en fait. Mmh. Et souvent on a ce raccourci de émotion négative, émotion positive, ça se poubelle en fait. On l'utilise parfois Julien et moi émotion négative positive parce que les gens le comprennent mieux de cette façon. Mais il y a pas d'émotion négative, enfin toutes les émotions sont positives.
Ils sont là pour dire quelque chose. Oui, c'est ça, c'est ton rapport avec les choses. Ouais. Et je pense que dans ce modèle des 4C, tu vois, tu amènes ça. En fait, l'idée de contrôle émotionnel ou plutôt de maîtrise émotionnelle, c'est certainement pas de les bloquer, mais c'est plutôt de comprendre que c'est dans ton rapport avec ce que tu ressens que il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a un changement qui va se produire. Et on est la clé, en fait, du changement qu'on recherche. On est la clé de cette différence qu'on veut vivre dans notre quotidien, alors de par nos comportements, nos réactions, nos attitudes, nos choix, etc. Mais c'est aussi comment est-ce que je me positionne par rapport à ce que je ressens. Et si jamais on m'a appris toute ma vie que être en colère, c'était très mauvais et qu'il fallait surtout pas se mettre en colère, bah, je vais avoir une attitude face à cette émotion qui est légitime, qui est naturelle, qui est normale, qui a sa place, bah, de contrôle, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup, bah, je fragilise, en fait, mon mental à cause de ça.
C'est ça. Exactement. Ouais. Alors, on passe à l'autre C maintenant, Julien. Je te laisse.
Autre C. Alors, c'est là où il va y avoir un petit changement de programme. Mm. Parce que en anglais, on parle de commitment. Mais en français, on va parler d'engagement. On va parler vraiment de s'engager dans une direction particulière. Et il y a deux types d'engagement qu'il faut développer, qu'il faut avoir en tête pour justement maintenir et renforcer cette force mentale, ce mental d'acier. Et en fait, on va vraiment voir en premier le fait d'avoir une orientation vers ce qu'on appelle l'achievement en anglais, mais vraiment l'orientation vers le résultat, l'orientation vers la transformation, vers la réussite, vers le succès de quelque chose, pour justement avoir cette capacité à porter notre attention, porter notre regard sur où est-ce qu'on a envie de se rendre, où est-ce qu'on a envie d'aller, parce que plus ça va être clair ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire, plus en fait notre système va pouvoir répondre efficacement sur ce qu'il va devoir mettre en place en termes de comportement, de réaction, d'attitude, de choix. Et c'est souvent là en fait où c'est intéressant, c'est que dans le mode de fonctionnement humain, la plupart des gens vont avoir beaucoup plus de clarté, d'image mentale, de détails sur ce qu'ils ne veulent pas, sur ce qu'ils craignent, sur ce qui les inquiète, sur ce qu'ils veulent pas vivre, sur ce qu'ils veulent pas ressentir. Mais ils vont avoir une idée beaucoup plus générique et beaucoup plus globale de là où ils ont envie de se rendre. Et parfois même, ils ont même pas l'information de savoir où est-ce qu'ils ont envie de se rendre. Mmh. Et tu peux pas, en fait, développer un mental d'acier si tu as pas une orientation de ton mental vers le fait d'atteindre un résultat, d'atteindre un but, d'atteindre un objectif. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile et que surtout, si c'est mal fait, ça peut provoquer des difficultés. Comme par exemple développer de l'anxiété de performance, l'anxiété liée à tout ce que tu dois faire pour atteindre un résultat, te mettre beaucoup trop de pression. Et en fait, c'est pas le but. Mais c'est vraiment de voir que j'ai quelque chose que je veux accomplir, j'ai quelque chose que je veux développer, je le garde en tête. Et un moyen de pouvoir renforcer notre force mentale, c'est de découper le plus possible justement ces buts, ces objectifs, et de se concentrer sur la prochaine étape. Donc oui, tu vois là où est-ce que tu veux te rendre, mais ensuite c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain point que je dois accomplir? C'est quoi la prochaine chose que je dois accomplir? Et si tu dois le faire à plusieurs reprises, ce même quelque chose, tu recommences. C'est ok, je l'ai fait une fois, faut que je le refasse 10 fois, mais là, je vais pas le faire 10 fois d'un coup. je vais le refaire une autre fois. Puis je vais le refaire une autre fois et je vais répéter 10 fois le fait de refaire une autre fois. Mmh. Et plus, en fait, tu vas mettre ton orientation sur le fait de miser sur des micro-accomplissements, sur l'accomplissement des petites étapes, des petits points de progression, plus en fait tu viens renforcer tout un tas de choses, déjà ton estime personnelle, ta confiance en toi, tu viens augmenter ton sentiment d'efficacité personnelle, de capacité, tu augmentes justement ton momentum positif de progression dans cette direction. Et c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Parce que si jamais tu bloques uniquement sur le résultat final, si la distance est trop grande, ça va être très difficile de pouvoir rester engagé. Si tu vas sur des petites actions, sur des petites choses du quotidien, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, déjà, c'est le premier point. On s'oriente vers des buts, et Samir, je vais te laisser aller plus loin dans cette idée-là, et on fait en sorte de rester concentré sur qu'est-ce qu'on peut atteindre, qu'est-ce qu'on peut réaliser et les micro-étapes sur lesquelles on peut se concentrer pour aller dans cette direction-là.
Ouais, exactement. C'est un point important, le fait de vraiment mettre le focus, en tout cas sur les objectifs à atteindre plutôt que les problèmes. Et quand on dit mettre le focus sur les objectifs à atteindre, ça va être vraiment de s'engager pleinement. Quand je dis s'engager pleinement, c'est passer par de la visualisation, d'accord, de chacune de ces étapes-là à réaliser. Et comme pour préparer le terrain, comme pour déjà commencer à faire le travail une fois, mais dans notre tête, on le dit souvent, la visualisation, c'est comme si on avait déjà vécu une fois l'expérience. Donc, ça va être ça, mais ça va demander, encore une fois, du contrôle. On revient sur le premier point, Julien. Pourquoi ? Parce que, tu sais, dans nos objectifs, on peut très vite s'embarquer de remettre le focus sur tous les problèmes qu'on est en train de voir, sur tous les défis qu'on est en train de vivre, en fait. Et ça peut prendre beaucoup de place. Et à ce moment-là, on perd le cap. C'est un peu comme si on était des pirates. Je viens de penser à pirates parce que ce matin, j'ai vu un post d'une entreprise qui s'appelait Go Pirate, dont Habib nous a parlé. Habib, qu'on a invité sur un podcast. Et en fait, du coup, c'est comme si tu étais un pirate en plein milieu de l'océan. Et d'un coup, en fait, toi, t'as pas forcément, t'as préparé ton plan, mais tu t'en remets pas forcément à ce plan-là. Tu es en train de regarder devant toi, il y a du brouillard. Et t'oublies ce plan. T'oublies cet objectif, t'oublies là où tu veux aller. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver à aller quelque part où tu ne sais pas. Parfois, ça peut donner des choses intéressantes, comme Christophe Colomb qui s'est retrouvé aux Amériques, d'accord? Mais encore une fois, j'ai peut-être parfois un doute sur cette histoire-là, d'accord? Bon, je pense qu'il était au courant, mais ça, c'est mon opinion. Mais juste de garder ça à l'esprit, tu l'écris, tu le mets en gras, tu le surlignes, peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe si tu es dans le brouillard ou pas, remets-toi-en à ce plan et sois engagé, en fait. Sois engagé, reste focus sur ton objectif. C'est ça qui va te permettre d'avancer. À partir du moment où tu n'es plus focus dessus, tu n'es plus engagé par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'effondrer, en fait. Ton projet va s'effondrer.
Ouais. Non, c'est un très bon point. Et en fait, il faut vraiment prendre en compte que plus le temps avance et plus nos vies se complexifient parce qu'on a plus d'infos, on a plus de choses à gérer, on a plus de choses à penser. Et en fonction de ton quotidien et de ce qui est déjà présent, c'est très facile en fait de perdre le focus sur ce qui est important pour toi pour commencer à te concentrer uniquement sur ce qui marche pas et sur ce qui va pas. Donc c'est vrai que là, t'amènes un point avec ça, Samir, où recadre-toi là. Oui, t'as des problèmes, oui, t'as des difficultés, mais recadre-toi le plus possible, parce que plus tu vas, je vais le dire comme ça, plus tu vas baigner dans la merde et moins tu te sentiras bien, quoi.
C'est ça.
C'est pas plus compliqué que ça. C'est maintenant, des fois, t'es pris dans tes propres process, puis il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler qui t'empêchent de pouvoir sortir de ça. Et dans ce cas-là, c'est plus d'un bouquin ou d'un coaching dont t'as besoin, c'est probablement d'une thérapie. Donc, fais ce qu'il y a à faire, prends-toi en main, mais t'as quand même ce pouvoir de recadrer ton attention, même si tu dois le faire 50 fois par jour. T'sais, le but, c'est pas que ce soit parfait tout de suite. Et du coup, on peut revenir sur la notion d'orientation vers l'accomplissement. C'est que si tu sais que ton mental, il t'emmène beaucoup vers le négatif, le but, c'est pas qu'à partir de demain, tu penses plus qu'au positif.
C'est ça.
Parce que ça serait pas cohérent. Ça marchera pas. tu vas juste te mettre de la pression, tu vas finir par abandonner parce que c'est trop dur. C'est plus, je me mets un micro-objectif, c'est que tous les jours, dès que je prends conscience que je focus sur quelque chose qui va pas, je me recadre. Et c'est ça ton objectif. C'est je me recadre. Ouais. Je veux savoir qu'à la fin de la journée, bah, j'ai pensé à plein de trucs négatifs, mais j'ai réussi à ne pas rester en boucle dessus. Je me suis recadré et j'ai repensé à d'autres choses plus importantes, c'est-à-dire mes objectifs et mes buts.
Ouais, exactement.
Donc ça. Fait qu'on va attaquer notre troisième C. Alors là, pour le coup, ouais, c'est un vrai C puisque
alors,
c'est la notion
C,
de challenge.
Mais en même temps, pour les personnes qui aiment pas les anglicismes, ils vont pas être contents. Donc bon.
C'est un challenge. Alors, il y a peut-être un truc à prendre en compte, c'est que c'est ici la question de l'anglicisme est très problématique au Québec parce qu'il y a des fervents défenseurs de la langue française, mais et c'est très bien parce que ça permet de donner une place à la langue française en Amérique du Nord. Donc c'est une excellente chose. Mm-hmm. Mais il y a un truc souvent qu'on oublie, c'est que la langue anglaise telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment très différente de celle qui existait au Moyen-Âge,
c'est ça.
Ben en fait, elle est composée énormément par des mots français. Mm. On a quelques mots en français qui sortent justement de la langue anglaise, mais il y a énormément de mots en anglais qui viennent en fait tout droit du français. Donc, c'est assez amusant, tu sais, quand on dit « ouais, faut arrêter les anglicismes, machin, etc. » Oui, mais en fait, il y a plein de choses qui nous appartiennent à la base. Hein, oui, si on monte au terme de base, c'était en français au départ.
C'est ça. Et puis, c'est une langue européenne, donc il y a eu beaucoup d'influences. Il y a eu beaucoup d'influences entre les différentes langues. Quoi.
Comme on a beaucoup de mots en arabe dans la langue française, comme on a beaucoup
plus que,
de...
Plus que les gens ne le pensent, ouais.
Ouais,
plus que les gens ne le pensent. Ouais.
Énormément. Donc c'est... Bon, bref, on va pas s'éparpiller.
Allez,
c'est juste pour le petit point. On se recadre. Donc, on a dit troisième... Un, deux, trois. On a dit le troisième C, c'est la notion de challenge. Et là, il y a deux points sur lesquels on va se concentrer. Le premier, ça va être vraiment l'orientation risque. Si tu veux développer un mental d'acier, tu dois travailler sur ton rapport au risque. Mmh. Je suis pas en train de te dire ici qu'il faut que tu prennes des risques et que tu fasses surtout des choses risquées. Et là, je vais faire vraiment la distinction entre les deux parce que c'est important de la faire. Prendre des risques, c'est de savoir que tu t'engages dans une direction avec un minimum de maîtrise et de choses que tu peux plus ou moins contrôler dans le but d'atteindre un objectif, tout en sachant que pour atteindre ce résultat que tu souhaites, tu prends un risque de perdre quelque chose ou simplement de ne pas y arriver. Ça, c'est faire preuve d'orientation risque mesurée, c'est je prends un risque, mais j'ai conscience de ce que ça implique et je suis prêt à perdre quelque chose pour obtenir autre chose. Là où on veut pas aller, c'est faire des choses qui sont risquées. Faire des choses qui sont risquées, c'est décider de te dire « bah je vais marcher sur le rebord de ma fenêtre au 15e étage de mon immeuble juste pour pouvoir nettoyer mes fenêtres de l'extérieur. Mais je ne m'attache pas, j'ai pas de nacelle, il y a pas de filet, il y a rien du tout, il y a aucune sécurité. » Et là, en fait, bah, c'est que tu fais preuve d'une surconfiance à ce moment-là et tu prends des risques qui sont démesurés parce que bah, c'est pas grave si ta fenêtre elle est un petit peu sale, tu vas peut-être pas te mettre dehors à je sais pas combien de dizaines de mètres de hauteur pour juste effacer un petit moucheron qui serait écrasé sur ta fenêtre sans prendre la moindre précaution. Donc quand on parle d'orientation vers le risque pour augmenter sa force mentale, c'est vraiment de savoir anticiper les risques et les dangers qui peuvent se présenter sur ton chemin, mais de savoir aussi aller vers cette direction-là. Et là, je reprends un élément que j'avais déjà partagé, mais je vais le remettre ici en contexte, parce que c'est là aussi où on voit que on a cette notion de maîtrise, puis c'est en lien aussi avec nos émotions. Je l'ai déjà dit, le vide et moi, on fait deux. Je suis pas fan des hauteurs, je suis pas fan du vide. Mon cerveau, je suis capable de me dire « bah ok, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, je peux le faire, etc. » Mais le reste de mon corps n'est pas d'accord du tout avec ma tête. Ça ne marche pas. Donc d'ailleurs, on s'est bien moqué de moi et je me suis moqué de moi-même aussi parce que c'était pas du tout négatif comme expérience, c'était vraiment très drôle. Mais quand on est parti justement en Europe avec le groupe pour la formation. On a été faire un petit peu de promenade, de marche, etc. Et à un moment donné, on a été en Italie, dans les Cinque Terre, et on s'est arrêté dans un village en particulier. Puis il y avait quand même beaucoup de hauteur, beaucoup de marche, etc. Et c'était très drôle parce que mes jambes ne voulaient plus suivre du tout. Pour la montée, ça va, mais alors pour la descente, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais peu importe, c'est dans ces moments-là, en fait, où l'orientation risque, elle doit prendre toute sa place. Tu peux décider, en fait, de ne pas le faire, ou tu peux décider de dire, en fait, c'est moi qui vais décider de le faire. Je vais y aller pareil. Parce que si je n'y vais pas là, si je ne dépasse pas la notion de risque qu'il y a ici, ben je laisse mon cerveau éduquer mon système par lui-même et de dire, ben en fait, ça, nous, on ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas le réaliser. Ça, on ne peut pas s'engager dans cette direction-là. Et tu sais, je prends toute la mesure de ce que ça implique parce que beaucoup de gens nous connaissent de par ce qu'on partage, de par ce qu'on fait, mais probablement très peu, au final, connaissent de là où on vient, par quoi on est passé, ce qu'on a vécu. Et clairement, quand j'étais, moi, beaucoup plus petit, j'avais une anxiété sur énormément de choses et j'avais un besoin de contrôle, en fait, sur absolument tout. Et pour te dire à quel point ça allait chercher loin, justement, c'est que j'aimais beaucoup regarder, tu sais, les anciennes séries qui passaient à la télévision quand j'étais plus petit. J'aimais regarder ça, puis surtout les séries type MacGyver, etc., tu sais, les trucs d'aventure, les inventions. Je trouvais ça génial. Et je me souviens d'une fois, je regarde une série, je me souviens plus du nom de la série. Et en fait, les deux héros se retrouvent coincés dans une grotte avec l'eau qui est en train de monter.
Ouais.
Et en fait, je m'étais fait un scénario dans ma tête en disant, en fait, il faut que j'ai toujours avec moi, si jamais ça m'arrive, faut toujours que j'ai avec moi des lunettes de plongée. Parce que moi, regarder sous l'eau, j'ai les yeux hypersensibles, puis c'est très désagréable et j'aime pas ça. Fait que si jamais je devais me retrouver dans une situation comme ça, il faut impérativement que j'aie mes lunettes parce que sinon je verrai pas où je vais aller et je vais me retrouver coincé. Et ça vient d'où? C'est très simple, ça vient de la piscine, un cours à l'école de natation où on nous demande de passer en dessous une espèce de forme à la travers laquelle tu passes pour vraiment plonger, nager à travers puis remonter de l'autre côté. Okay. Et en fait, moi je me suis fait un coup de flip dans ce truc-là parce que je suis resté coincé pendant 10 secondes parce que j'arrivais plus à retrouver la sortie dans ce petit bloc-là. Et donc, si tu veux, il y a tout un truc qui s'est développé. Et pourquoi je te parle de ça? En fait, c'est tout simplement parce que dans notre quotidien, face aux choses qui nous inquiètent, face aux choses qui nous font peur, face aux choses qui représentent des risques, on a tendance à démultiplier, en fait, ce que ça représente. On a tendance à augmenter et amplifier l'importance que ça représente. Donc, je te dis pas de faire des choses complètement irraisonnées, de te jeter par la fenêtre pour savoir si t'es capable de voler.
Bien sûr.
Mais tu vas faire en sorte, par contre, de mesurer ce que tu peux en termes de risque et de savoir si est-ce que je prends ce risque-là, mais en sachant que il va y avoir une récompense, ne serait-ce que de se dépasser soi-même, mais avec un minimum de maîtrise. Et plus, en fait, tu vas aller dans cette direction, plus tu vas pouvoir accomplir de choses et plus tu vas pouvoir avancer. Parce qu'à chaque fois que tu recules, il se passe rien. À chaque fois que tu t'arrêtes, à chaque fois que tu changes d'avis parce que c'est pas confortable, parce que c'est stressant, parce que c'est inquiétant, parce que tu sais pas si ça va marcher, en fait, tu perds du terrain sur ton épanouissement, sur ton bonheur et surtout sur cette force mentale dont tu vas avoir besoin de toute façon à un moment donné ou à un autre et certainement à plusieurs reprises dans ta vie. Donc ça, c'était la première partie, puis du coup le la petite tranche de vie que je vous partage en direct, mais vraiment d'avoir une orientation vers le risque qui est mesurée, mais qui est présente le plus souvent possible. Parce que sans cette prise de risque, il va rien se passer dans ta vie. Ouais. Tu vas probablement stagner et très très certainement régresser.
Exactement, Julien. Et merci pour ce petit partage de vie, justement. Et j'en ai plein aussi, comme ça, des partages de vie. Mais vraiment de comprendre, on parle de force mentale. Et comme toute force, ça demande de l'entraînement. Ça demande de la répétition. Ça demande de s'observer. Ça demande de se dépasser aussi. Donc, c'est pour ça que ce challenge va être important, ce côté challenge. Et ça va être vraiment, ça va être important dans toute chose, que ce soit dans ta vie personnelle, dans tes projets, dans ta santé mentale aussi. Parce que je vais te donner un exemple. Mm-hmm. T'es addict aux réseaux sociaux. Allez, t'es sur TikTok, t'arrives pas à te contrôler. Tous les jours, t'es obligé de passer, je sais pas moi, 5 heures, 6 heures sur TikTok. Tu te retrouves à faire, à passer une journée complète. Mm-hmm. Et tu enchaînes les lives et tu enchaînes les vidéos. Bah, t'as aucune force mentale. T'en as pas du tout, en fait, à ce moment-là. Alors qu'à côté, t'as peut-être plein de projets sur lesquels tu dois avancer. Mmh. Et t'es là et tu passes ton temps sur TikTok et tu dis, mais j'ai pas le temps, mais j'arrive pas à m'en sortir. Bah, t'as pas de force mentale. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est, je parle de, par exemple, de TikTok, hein, mais je peux parler de tous les réseaux sociaux, mais TikTok est beaucoup plus viral. C'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de monde autour de moi. Il y a pas mal de vidéos qui tournent en ce moment aussi sur ça, sur les effets TikTok. Et le truc, c'est que, à un moment ou l'autre, bah, il va falloir que tu dises, écoute, je vais me discipliner. Ok, je m'interdis pas les réseaux sociaux, mais je me mets 30 minutes et au bout de 30 minutes, c'est fini. Et si t'arrives pas, bah, tu te coupes. Tu te dis, ok, je fais une semaine.
Bah, tu supprimes.
Une semaine sans TikTok. Voilà.
Tu supprimes le truc.
C'est ça. Et tu te focalises sur tes projets parce que regarde tout, déjà, un, tu regardes tout le temps que t'es en train de perdre. Et de deux, en fait, ton cerveau, tu l'habitues à lui dire, bah, dès que t'as envie de quelque chose, je te le donne. Tu veux quelque chose? Je te le donne. Tu veux du chocolat? Je te le donne. Tu veux manger de la junk food? Je te le donne tout de suite.
Ouais.
Et ça, en fait, ça va se répercuter sur tout ce que tu fais dans ta vie. Vraiment, sur tout ce que tu fais. En fait, quand tu n'as pas d'autodiscipline, parce qu'on peut faire le lien avec l'autodiscipline, d'accord? Avec, quand tu ne vas pas au bout de tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu deviens quelque chose de tout mou, de tout malléable, en fait. Et n'importe qui peut faire ce qu'il veut de toi, en fait. Et même dans tes relations, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui peut venir et peut te dire ce que tu dois faire, comment tu dois réagir, comment tu dois faire ceci. Et tu n'as aucune force mentale, justement, pour pouvoir avancer. Donc, l'un des meilleurs moyens de pouvoir renforcer ta force mentale, c'est les défis. Tu te donnes des défis tous les jours. Quelque chose qui est habituel, qui n'est pas forcément aidant pour toi, bah, peut-être de te dire, encore une fois, en utilisant la règle des 1%. On va pas, comme tu dis, Julien, on va pas se mettre en danger, comme pas possible. C'est juste... Ok, bah, je sais pas, moi, je vais te donner cet exemple-là dans les relations. J'ai tendance à pas savoir dire non. Bah, je vais apprendre à dire non une fois par jour. Par exemple, je dis non à quelqu'un une fois par jour sans me justifier. J'ai peur, Julien, peut-être des hauteurs. Bah, je sais pas, je vais peut-être essayer de me challenger, mais en gardant un peu de sécurité. Moi aussi, ça, les hauteurs, j'aime pas trop. Je dis pas que j'ai peur. J'ai pas forcément peur, mais c'est désagréable, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, je vais tomber. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais tomber. J'ai pas forcément le vertige, mais parce que j'ai eu ça, bah, je l'ai fait, tu vois. C'est pareil, comme je t'ai dit, j'avais donné cet exemple là du défi que je m'étais lancé au sommet d'un...
sur une tour à New York, quoi.
Ouais, une tour à New York, je sais plus, elle faisait 500 mètres de haut où tu te penches dans le vide. Bah, c'était justement pour ça. Alors que, bah, ce jour-là, je peux le dire, mais il y avait ma femme à côté, tout se passait pour le mieux pour elle, tu sais, elle était hyper zen.
Tranquille.
Et moi, j'étais stressé, tu vois. Je me disais, mais imagine que ça lâche.
Il faisait des petites crottes de lapin, on pouvait le suivre à la trace.
Mais c'est vrai. Mais tu vois, en fait, quand j'ai pris la décision de faire ce défi, c'était pour ça. C'était parce que je me suis dit, il faut que je me challenge. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Il faut que j'aille au bout des choses. Parce que sinon, en fait, ça va se répercuter dans toutes les choses que je fais dans ma vie. Et je peux pas, en fait. Et ça s'appelle aussi le courage. Courage, c'est faire ce qu'il y a à faire. Et je ne peux pas. Même si t'as peur. Et je peux pas être courageux si aujourd'hui, je me challenge pas à dépasser des peurs. Donc, voilà, c'était drôle, mais je l'ai donné comme ça. Mais ma femme, c'est vrai qu'elle était tranquille, elle était en train de manger son petit chocolat. Et puis moi, j'étais un peu stressé. Puis j'avais même peur pour elle. Je me disais, imagine, tu sais, je sais pas, moi, l'équipement lâche pour toi, mais j'ai pas envie de te perdre et tout. Mais tu sais, c'est dans mon cerveau, surtout avec l'hypersensibilité, Julien, la pensée arborescente.
Ah bah, ça y va, hein.
On imagine tous les scénarios, même des scénarios pas possibles, hein. Tu les imagines quand même.
Oui, bah, tu sais, moi, je me revois bien en Italie, au Vatican, à monter. Vraiment tout en haut, bah, du plus haut bâtiment, d'être dans des tout petits escaliers en pierre qui penchaient à moitié, à regarder dehors, super paysage, hein, magnifique, mais en plein milieu de la montée où tu peux pas faire demi-tour parce que t'as un endroit pour monter, un endroit pour descendre, là où ton cerveau te dit, ah ouais, mais puis si là, tout de suite, il y avait un tremblement de terre, tu penses que c'est assez solide, tu penses que ça va tenir ou que ça va se casser la gueule ? Ah bah voilà. Donc bah, tu te mets en panique parce que t'as rien demandé. Et moi, je me revois, hein. J'étais là, je me dis, non, mais pourquoi tu penses à ça? c'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Donc, je me suis mis sur le côté, tu sais, j'ai juste fait une pause parce que j'étais comme, ok, là, j'ai du mal à respirer. Et puis, ça commence à prendre de la place, ça va pas du tout. Donc j'ai laissé 2-3 personnes passer. Après, bah, j'ai utilisé l'une des stratégies justement qu'on enseigne, entre autres dans notre formation sur la gestion des peurs et de l'anxiété, par exemple, où finalement, j'ai juste sauté sur place, mais vraiment sauté sur place, parce que de toute façon, c'est pas moi qui allais faire tomber l'édifice, hein, on s'entend. Je veux bien avoir un gros cul, mais quand même. mais c'est vraiment de... J'ai sauté sur place et j'ai appliqué, bah, nous, ce qu'on enseigne, qui est le... OK, en fait, je suis excité par cette idée d'aller jusqu'en haut, de pouvoir découvrir tout paysage, de voir en fait le jardin du Vatican du dessus avec tout ce qui a été fait avec les fleurs, les plantes, etc. Et en fait, ça a duré 2 minutes. J'ai été tout en haut, puis c'était terminé, on n'en parlait plus. Mmh. Et en fait, l'anxiété qui pouvait prendre énormément de place par le passé, bah bien sûr que ça revient encore aujourd'hui, puis c'est OK, parce que je sais que ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Mais c'est vraiment de voir que, en fait, plus tu vas dans le sens inverse de ce que tes peurs te disent de faire, avec bien sûr un certain niveau de précaution. Hein, tu ne serais pas penché au-dessus des 500 mètres de vide sans être bien harnaché et bien accroché et que toute la sécurité soit vérifiée. Mais c'est vraiment d'aller dans cette direction-là. Fait que toi qui nous écoutes, pour renforcer ta force mentale, va effectivement chercher plus de risques, mesure-les, mais prends des risques. En fait, tu verras que la qualité de ta vie et les résultats que tu as, c'est toujours conséquent à des décisions un minimum risquées. Et plus le risque est important mais mesuré, plus en fait tu as des résultats qui sont incroyables derrière. Plus tu vas être timoré, donc vraiment mesuré mais très très petit sur ce que tu décides de faire parce que ça reste confortable, mais moins en fait tu auras les résultats que tu veux. Puis oui, c'est confortable sur l'instant, mais en fait t'es en train d'affaiblir. Parce que je veux pas dire que tu deviens faible, parce que c'est pas toi qui es faible. Mais t'es en train d'affaiblir considérablement la force de ton mental, qui est quand même la clé de tout ce que tu fais, de ce que tu décides, de comment tu réagis. Fait que plus c'est faible, plus tu vas être sous le contrôle des autres, de l'environnement, des situations, des événements qui vont se passer. Puis honnêtement, on te souhaite pas ça, quoi.
C'est ça.
C'est pas ce qu'il va y avoir de mieux. Fait que sur tous ces points-là, en termes de challenge, il y a un autre élément qu'on peut amener ici, c'est vraiment la notion d'apprentissage. Il faut t'orienter sur une notion d'apprentissage. Bien sûr que tu te challenges, mais vois dans le challenge des choses que tu vas apprendre, des choses que tu vas justement mettre en avant. Et plus tu vas te challenger pour aller apprendre des nouvelles choses, pour aller apprendre par l'expérience, plus en fait tu vas aller vite dans ta progression. Si t'es juste dans un apprentissage papier, théorique, bon bah tu sauras plein de trucs, t'iras jouer au Trivial Pursuit et puis super. T'sais, peut-être que tu deviendras le champion du monde du Trivial Pursuit, tu feras un concours une fois par an, tu vas gagner 10 000 balles, tu vas passer dans un journal, puis c'est cool. Mais en fait tu peux faire bien plus que ça. C'est sortir et tester, apprendre sur le terrain, te challenger, mais dans le but d'apprendre. Je le fais pour apprendre quelque chose. Je suis mauvais dans ça, je veux vraiment progresser. Bah, va acheter des bouquins si tu veux, mais passe à l'action. Fais-le. Teste-toi, challenge-toi. Et là, tu vas apprendre. Et là, tu vas découvrir qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Fait que ça, pour la partie challenge, pour renforcer ton mental, c'est orientation vers le risque, mesuré, et orientation vers l'apprentissage, à travers le challenge. Et si tu fais ça, tu vas voir que ton mental, il va se renforcer, mais de ouf, et que tu vas pouvoir progresser, et surtout passer à travers les moments qui seront plus difficiles avec beaucoup plus de facilité.
Ouais, exactement, Julien. Voilà, juste garde ça à l'esprit que chaque jour, tu dois te définir au moins un petit challenge. Mais vraiment un petit challenge. Voilà, ne te mets pas forcément en danger parce que sinon, ça pourrait être très, très désagréable. Ça pourrait te laisser de très, très mauvais souvenirs, même créer des ancrages qui peuvent être négatifs. Donc, tout en gardant cette petite notion de contrôle. D'accord ?
Tout à fait.
Contrôle avec un peu de lâcher prise. Parce que c'est ça, en fait, le truc. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas progresser parce que à chaque fois que tu vas te dépasser, tu vas déjà apprendre à te connaître parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, que tu peux réaliser plein de choses et ça va te donner ce goût-là de pouvoir avancer et surtout qu'en plus, cette notion de challenge-là, comme tu dis, l'apprentissage, challenge égale apprentissage, quoi qu'il arrive, c'est que l'apprentissage joue un rôle aussi sur notre bien-être émotionnel et notre bonheur en règle générale. Quand on n'apprend pas,
tout à fait.
On peut pas être heureux. Et en plus, pareil, quand on n'apprend pas, on peut développer aussi certaines maladies. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais il y a des maladies type Alzheimer, etc., qui peuvent venir parce que tu stimules plus ton cerveau, en fait.
Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, c'est vraiment des bons points que t'amènes. Alors bien sûr, il y a pas que ça.
Il y a pas que ça.
Tu
oui,
sais très bien
sûr.
Que oui, oui, que quand on t'amène de des sujets, c'est
pas
ça.
Pas de raccourcis. Fait...
on peut vulgariser et simplifier pas mal de choses parce que c'est le but aussi de rendre finalement la psychologie humaine beaucoup plus accessible parce qu'on en fait des caisses pas possibles alors que on peut aussi voir les choses beaucoup plus simplement et les expliquer beaucoup plus simplement et rendre accessible finalement à tout le monde. Bah, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment est-ce qu'on fonctionne et comment on peut gérer plus efficacement les choses. Mais c'est ça, de pas prendre de raccourcis en oui. disant oh, bah du coup c'est que ça qui est responsable de non, il y a plein de facteurs.
Non, je pense toujours. Que ma femme me tapera sur les doigts si elle entendait que je disais des conneries pareilles, si je limitais ça à ça.
Ouais, je pense qu'elle va pas être très contente.
C'est ça.
Bon, bah, ça veut dire que toutes les recherches que je fais, ça sert à rien. T'as trouvé la solution, c'est juste ça le problème. Attention, Samir. Attention.
Alors, du coup, il y a un autre C.
Oui, le dernier C, le quatrième.
C'est celui de la confiance.
Absolument.
Et oui, parce que ça, et encore une fois, tous ces C qu'on est en train de donner, ils sont interconnectés. D'accord ? Ils s'imbriquent les uns les autres. Ils vont avoir une influence sur les autres. Donc, la confiance, encore une fois, c'est notre degré de croyance. En ce qu'on peut accomplir, en termes d'activité, en termes de ressources, en termes de challenge qu'on peut justement accomplir. Et la confiance, c'est comme, on parlait du challenge juste avant, la confiance, elle est liée à la force mentale, en fait. Dans le sens où la force mentale, c'est un muscle, la confiance, c'est un muscle aussi. Et encore une fois, la confiance en soi, ça va pas être, j'avais parlé, Julien, on en avait déjà parlé, il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. Tu peux avoir de l'estime de soi, mais pas avoir de confiance en soi. Tu peux avoir les deux. Tout comme tu peux avoir aussi de la confiance en soi et pas de l'estime de soi. Donc ça, c'est important. Et ça, on te renvoie au podcast sur lequel on a parlé de la confiance en soi. Je sais plus c'est quel épisode, mais tu trouveras de toute façon sur la liste. Ça doit faire peut-être il y a 10 épisodes, quelque chose comme ça. Je sais pas.
Ça doit être à peu près ça. C'est très récent. Effectivement, tout à fait.
Et du coup, le truc, c'est que être confiant en soi, c'est être sûr ou avoir confiance en ses capacités, en ses ressources et à sa capacité de dépasser les difficultés. D'accord ?
Ouais.
C'est surtout ça, en fait, la confiance en soi. Et pour justement développer cette confiance, il faut que tu te lances des challenges. Il faut que tu testes des nouvelles choses. Il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Il faut que tu apprennes aussi à te connaître. C'est important aussi de mettre à jour tes capacités parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont là, qui disent « Mais moi, en fait… » j'ai pas confiance en moi dans telle chose, mais je suis sûr, si tu creuses, il y a peut-être des domaines dans ta vie dans lesquels tu vas l'utiliser, cette confiance. Cette confiance, elle est là. La confiance, elle est là. C'est juste qu'on sait peut-être pas l'utiliser à certains moments. Donc, d'apprendre à se connaître, ça va nous permettre de juste de se dire, OK, tu vois, regarde, j'ai peut-être pas confiance en moi quand je suis face à des gens que je ne connais pas et je dois faire un exposé, mais quand je suis face à mes amis, par exemple, je suis capable de faire le bout en train, je suis capable d'attirer toute la lumière sur moi et j'ai aucune difficulté à m'exprimer. Donc en fait, cette confiance, elle existe. Il faut juste que j'apprenne à l'utiliser dans un élément ou dans une situation où j'ai pas l'habitude de l'utiliser.
Ouais, complètement. Et c'est important, en fait, je pense, le point que t'amènes ici. Alors déjà, la confiance en soi, c'est un muscle, comme tu le dis. Fait que plus j'utilise, plus il est présent, plus je vais l'utiliser, plus il va être présent, etc. Donc, ça va être un cercle vertueux pour le coup. Mais c'est aussi d'avoir une compréhension, une connaissance de soi beaucoup plus approfondie. Parce que pour avoir confiance en soi, faut qu'il y ait aussi ce sentiment de self-efficacy qui soit en place. Donc, qui est vraiment cette reconnaissance de nos propres capacités, de nos propres habiletés. Et si je ne me connais pas suffisamment, et si j'ai tendance à trop regarder ce que je sais pas faire, ce que je sais pas accomplir, ce que j'ai pas réussi à avoir, en fait, je fais abstraction sans le vouloir de toutes mes capacités, habiletés, compétences. Et comme je les ai pas présents en conscience, je peux pas les utiliser. Donc, plus je mets à jour ça, plus je renforce ma connaissance de moi-même, plutôt que tout le temps mettre le regard sur ce qui va pas, sur ce qui marche pas, sur ce que je sais pas faire, bah, plus je vais avoir de facilité à avoir ce sentiment de confiance. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, Samir, hein, c'est connecté. Fait que si j'ai confiance en mes habiletés, à mes compétences et mes capacités, je peux prendre plus de risques. Je peux me challenger pour apprendre des nouvelles choses. Je peux rester focus sur les objectifs que je veux atteindre. Je peux me concentrer sur les choses que je sais déjà faire maintenant. J'ai une meilleure gestion de mes émotions. J'ai un sentiment de maîtrise de ma vie qui s'installe. Puis il y a tout, tu sais, il y a tout qui se met en place. Il y a tout qui se fait. Donc c'est vraiment hyper important ce que tu amènes là sur cette notion de connaissance de soi qui va être une clé essentielle pour avoir confiance en soi. Parce que de toute façon, je donne souvent cet exemple-là, j'aime bien utiliser ça, mais si demain tu croises quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, est-ce que tu leur mettrais entre les mains, en fait, des décisions qui pourraient impacter ta vie en profondeur pour le reste de ta vie? La réponse est probablement non. Mmh. Et quand je vais te demander pourquoi, bah, tu vas me dire bah, parce que je connais pas la personne. Bah, c'est pareil pour toi. Comment est-ce que tu peux te faire confiance si tu te connais pas? C'est impossible. Tu peux pas te faire confiance. Parce que justement, tu as ce manque de connaissance de toi-même. Donc ça, c'est un super point que tu nous amènes, Samir. Je te remercie pour ça. Et pour compléter du coup ce point de confiance, ce quatrième C, c'est d'avoir aussi confiance dans les personnes qui t'entourent. C'est vraiment d'avoir une confiance interpersonnelle dans le sens où il faut que tu mesures les choses. Les relations aux autres, elle doit aussi être composée d'une orientation au risque et à l'apprentissage. Tu peux pas faire confiance aveuglément aux personnes qui t'entourent. Parce que ça sera le chemin le plus rapide pour être déçu, manipulé, et pour avoir des expériences de vie qui vont pas du tout être agréables. Tu peux pas non plus être en mode « Non, non, mais moi je veux faire confiance à personne, je parle à personne, je partage avec personne. » Parce que tu vas t'isoler, donc tu vas réduire considérablement un des leviers critiques de ton bien-être et de ton développement personnel, qui est ton réseau social. Donc plus t'es isolé, moins c'est bon. D'ailleurs, il y a plus d'une étude qui a démontré que l'isolement engendrait une perte des fonctions cognitives de façon exponentielle. Plus tu passes du temps seul et plus tu perds tes fonctions cognitives. Donc, pas bon du tout. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux pour toi, de savoir connecter avec des nouvelles personnes, savoir accorder graduellement ta confiance, mais en laissant aussi cette opportunité de montrer aux autres que bah, tu leur fais confiance, que tu leur remets ta confiance entre les mains, sur certains points, pas tous, et que après c'est à eux d'en prendre soin. Et que s'ils respectent pas, bah, tu prends tes décisions, tu fais tes choix, et tu prends ta distance. Mais d'être capable, justement, de développer ça plutôt que d'être dans une surméfiance de l'autre. Tu sais, tu peux avoir du recul. Je sais que pour ma part, je prends beaucoup de recul. Je fais attention parce que je me suis déjà fait avoir beaucoup trop de fois par le passé. Donc, je fais très attention. Je surveille, je regarde, j'y vais pas à pas et j'en donne de plus en plus au fur et à mesure. Et c'est vrai que si jamais bah, ça vient à être remis en question et que si jamais ça vient à m'impacter, bah, mon premier réflexe, c'est de m'en remettre à moi et de dire « Ok, bah en fait, j'ai fait confiance à cette personne-là sur ce sujet-là. Je viens de voir que, en fait, je ne peux pas le faire, mais c'est ok. Je vais simplement retirer cet élément-là et je suis responsable parce que c'est moi qui ai ouvert la porte. Donc maintenant, je la referme et je vais donc agir différemment. Je vais poser les choses différemment. Mais plus tu fais ça, en fait, plus tu vas renforcer justement ton mental parce que bah, tu seras plus en mode naïveté totale, le monde se sert de toi et puis tu prends des claques tous les quatre matins. Mais tu vas pas être non plus en mode je m'isole totalement, je parle plus à personne, je fais plus confiance à personne parce que j'ai eu des expériences passées qui ont été compliquées ou douloureuses. Donc on trouve un juste équilibre, mais plus tu fais ça, plus tu challenges aussi justement ton sentiment de confiance interpersonnelle et plus tu vas renforcer justement ton mental. Et l'autre point que j'ai envie d'amener là-dessus, et après, Samir, si jamais t'as des éléments que tu veux rajouter, je te laisserai. C'est que il y a aussi dans cette notion de confiance interpersonnelle la confiance que tu donnes aux autres d'avoir en toi. Puis ça aussi, ça va renforcer ta force mentale. Parce que si jamais tu t'es engagé auprès d'une personne, puis là on retrouve la notion d'engagement, mais si tu t'engages auprès d'une personne, elle te fait confiance sur le sujet, que ce soit difficile ou pas, que ce soit plaisant ou pas, ben en fait si tu t'y tiens, tu entretiens justement cette confiance que l'autre peut avoir en toi, et tu vas jusqu'au bout. Et du coup, tu fuis pas tes responsabilités, tu fuis pas ton rôle, parce qu'à un moment donné, ça devient inconfortable. Donc tu renforces aussi ton mental à travers bah, la confiance que les autres t'accordent, et qu'est-ce que tu fais toi de cette confiance-là ? Est-ce que tu la prends ? Est-ce que tu l'honores ? Ou est-ce que tu te barres en courant ? Et dans ce cas-là, bah, tu affaiblis ton mental de plus en plus.
Ouais.
Et je vais refaire un petit parallèle là-dessus. Dans un des précédents podcasts, je pense qu'il y a 3-4 épisodes, peut-être un peu plus, mais pas énormément, on avait évoqué la problématique de l'agoraphobie. Mmh. On avait précisé que l'agoraphobie, c'était clairement pas la peur de la foule, mais c'est plus la peur de tout. La peur d'avoir peur, la peur qu'il se passe quelque chose, la peur qu'il y ait un truc qui se produise, peu importe. Et que cet état-là, cette problématique-là, ressort dans la majeure partie des cas chez des personnes qui ont été surprotégées. Mmh. Sur des personnes qui ont toujours, sans le faire exprès, de par leur environnement, évité les challenges, évité les problèmes, évité les difficultés. Toujours la simplification, la facilité, toujours le raccourci pour éviter l'inconfort. Et en fait, plus tu fais ça, plus ton mental va être faible. Donc, renforce pleinement ton mental, c'est super important.
Ouais. Exactement, Julien, exactement. Et vraiment là, je pense que toi qui nous écoutes, à la fin de ce podcast, tu te rends compte à quel point chacun de ces éléments qu'on a apportés, les quatre, sont imbriqués et sont interconnectés. Parce que ouais. Pour développer ta confiance, développer ton sens du challenge et par exemple ton contrôle de soi, bah, il te faut de l'engagement. Pour développer ton engagement, ton sens du challenge et ta confiance, il te faut encore une fois du contrôle de soi. Donc en fait, chaque élément va influencer l'autre. Donc vraiment de comprendre que toi qui nous écoutes, si tu as des ambitions, si tu as envie d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus alignée, peut-être des relations beaucoup plus alignées, bah en fait, il va être important pour toi de développer cette force mentale à l'image de quelqu'un qui va aller tous les matins à la salle de sport pour muscler ses muscles, pour travailler, ou quelqu'un qui va courir tous les jours pour essayer de gagner en performance. Bah en fait, c'est exactement la même chose. Et honnêtement, je vais le dire comme ça, après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, dans sa vie, mais je pense que c'est une de tes responsabilités, vraiment. Parce que certes, il y a peut-être des gens qui se laissent aller, et c'est leur choix, c'est leur droit s'ils veulent se laisser aller. Mais je pense que si on est en vie, si on a cette chance d'être en vie, d'être sur Terre, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter, et il y a des personnes qui donnent, et il y a des personnes qui prennent. Donc, soit tu es un contributeur, soit tu es quelqu'un qui prend et qui laisse rien derrière lui, et bah choisis ton camp en fait. Voilà, je fais un peu le mec polarisé, mais pour moi, il n'y a pas de troisième option. C'est soit tu contribues, en tout cas, tu essayes de contribuer au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on contribue tous les jours, hein, mais soit il y a des personnes vraiment qui ne contribuent pas du tout et qui font que prendre, quoi.
Bah, c'est ça, faut trouver un juste équilibre. Ouais. Ouais. Et puis, je crois vraiment que tu peux être dans... Bah, en fait, dans le fait de donner beaucoup. Alors, donner de façon mesurée, donner c'est de ça, façon cohérente,
il y a aussi
donner
de
façon stratégique aussi.
Avec
parce
contrôle.
Que tu donnes pas tout et n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des limites, tu es responsable de ce que tu fais. Et tu peux pas blâmer les autres parce que ils sont servis, parce que ceci, parce que cela. À un moment donné, c'est où ma part de responsabilité. Mais clairement que celui et celles qui vont gagner le plus dans l'histoire sont celles et ceux qui donnent parce que eux vont recevoir de toute façon en retour.
Exactement.
D'une manière ou d'une autre, il y a ce retour qui va se faire et pas parce qu'il y a une loi karmique ou je ne sais quoi. C'est parce que c'est le principe même des opportunités. Et en fait, des choses que tu mets en avant, que tu mets en place, sachant que toutes tes actions et tes décisions peuvent avoir un impact sur du très long terme et te ramener des résultats, même plusieurs années après, sans forcément que tu aies eu conscience de Ah ouais, mais en fait, j'ai parlé à cette personne-là, je l'ai aidé là-dessus, et 5 ans plus tard, ça se trouve, c'est cette personne-là qui va t'amener dans une autre direction et qui va t'aider sur un autre sujet. T'en sais rien du tout. Fait que t'as plus, effectivement, à gagner en donnant que en prenant simplement et en te servant le plus possible. Et d'ailleurs, moi, ça me fait toujours rire parce que il y a toujours des gens dans notre entourage qui arrivent, qui prennent place, qui se servent à fond et qui, à un moment donné, se sentent tellement mal qu'ils ont tellement pris, qu'ils vont prendre simplement leur distance en te reprochant X ou Y, là ils trouvent toujours un moyen de se justifier de pourquoi ils s'en vont. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est que, regarde, si t'avais pas été comme ça, si t'avais été beaucoup plus honnête, si t'avais été avec toi-même, puis avec moi ou avec les personnes qui t'entourent, si t'avais été vachement plus aligné, ben en fait, tu pourrais continuer de profiter de tout ce qu'il y a à offrir, de tout ce qu'il y a à partager. Mais non, t'as préféré prendre, t'as préféré sécurisé parce que bah t'as tes peurs, t'as tes inquiétudes, et après t'es tellement pas bien que tu te barres, et en fait tu perds tout ce à quoi tu pourrais avoir accès, tout ce à quoi tu pourrais connecter, juste parce qu'à un moment donné, bah tu te connais pas suffisamment, t'es pas aligné avec toi-même, et en fait dans la dynamique tu te respectes pas. Donc vraiment de travailler sur tout ça, et là bah particulièrement aujourd'hui à travers ce podcast sur ta force mentale, parce que t'en as besoin. C'est autant tu as besoin d'une force physique, parce que quand tu arriveras à un certain âge que tu pourras plus porter tes bouteilles d'eau et monter ton escalier, bah là tu vas peut-être te dire, sauf si tu as une condition médicale particulière, mais là tu vas peut-être te dire, merde, finalement tout le temps que j'ai pas passé à faire du sport parce que ça me prenait le chou, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, bah c'est à ce moment-là que tu vas dire, ah bah merde, je peux plus bouger comme je veux, ah mince, je peux plus faire telle et telle chose. Alors il y a de la génétique, on est d'accord, mais il y a aussi, qu'est-ce que t'as fait de ton hygiène de vie? Qu'est-ce que t'as mis en place? C'est quoi les habitudes que t'as entretenues? Donc ça joue. Mais ton mental, c'est pareil. Quand il y a un truc difficile qui va se produire, parce qu'il y en a qui vont se produire des choses difficiles dans ta vie, c'est pas à ce moment-là où il faudra te dire « Oh là là, mais il faut que je travaille sur mon mental, faut qu'il soit plus fort. » C'est trop tard, en fait. T'es déjà en train de vivre le truc. T'es en train déjà de passer à travers. Alors, tu peux travailler dessus. Tu peux te développer, comme tu peux reprendre le sport finalement au moment de ta retraite. On a un coach sportif, justement, avec qui on va bientôt collaborer, en plus de Bananamo, Morgan, ouais, qui s'occupe, justement, alors, des personnes âgées, mais pas que, pour les aider, justement, à se remettre au sport, récupérer de la force musculaire, travailler sur leur stabilité, travailler sur leur contrôle de mouvement, pour, justement, les aider à avoir une meilleure qualité de vie. Donc, tu peux faire ça n'importe quand, que t'aies 20 ans, que t'en aies 30, que t'en aies 70, ça n'a pas d'importance. Travaille aujourd'hui à développer cette force. Alors physique, si on parle du sport, mais surtout mental ici, qui est notre sujet, travaille dessus. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu vas prévenir la manière dont tu vas réagir et dont tu vas gérer les événements qui vont se produire plus tard. C'est et ça, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Tu ne peux pas t'en remettre à une application externe sur ton téléphone qui va gérer en fait tes difficultés à recevoir et à vivre des situations qui sont complexes.
Exactement. Donc,
travaille dessus.
Et ça me fait penser à justement à Faujak Singh, ce que tu dis, qui est un runner indien en fait. En fait, il s'est mis à courir à l'âge de 88 ans. Il a jamais couru avant. Il faisait pas de sport.
Okay.
Et à l'âge de 88 ans, après le décès de sa femme, il s'est mis à courir en fait. Et il a fait, je crois qu'il a fait un marathon de Londres, son premier marathon. Il avait 89 ans. Et à l'âge de 100 ans encore, il continuait à courir 13 kilomètres, 16 kilomètres. Et il continue à le faire, c'est juste le moment où il a arrêté, c'était au moment du Covid, où en fait il s'est retrouvé, il me semble qu'il était en Inde et il était bloqué en Inde, il ne pouvait plus retourner en Angleterre. Mais en fait, il a commencé à courir à l'âge de 88 ans et encore à 100 ans là, il était encore en train de courir et je crois que là, il doit avoir 113 ans. Donc il a pris sa retraite, en tout cas pour les marathons, à l'âge de 101 ans en fait.
C'est génial.
Mais il continue de courir. À 104 ans, il a continué de courir.
Ça me fait penser à cette femme, je pense qu'elle doit être proche de 90 ans,
ouais,
qui a fait un meilleur score que pas mal de monde sur le marathon de New York ou de San Francisco, je sais plus. C'est l'un ou l'autre. Et tu te dis, waouh, c'est cool, en fait. C'est waouh, vraiment. Ouais. Alors, encore une fois, il y a la génétique, hein, on la met pas de côté et on a toutes et tous des conditions peut-être médicales ou physiques qui font qu'on ne peut peut-être pas faire ça. Mais c'est de voir aussi que, bah attends, si c'est accessible à cette personne-là, pourquoi est-ce que ça ne serait pas pour moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas me renforcer? Tu sais, est-ce c'est que ça. Je suis condamné à être le petit Calimero qui se plaint dès qu'il y a un truc qui se passe et qu'il y a une difficulté qui se produit? Ou est-ce que finalement je peux être un gladiateur, je peux être une Amazone? Tu sais, est-ce que je peux juste prendre ma place et puis en fait arrêter de subir ce qui se passe autour? Et ton mental t'en a besoin. Si tu t'en occupes pas, il va rien se passer. Puis là, on parle vraiment à travers notre expertise, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. C'est notre psychologie, c'est comment est-ce qu'on entretient notre rapport à nous-mêmes, aux choses, quelles sont les stratégies cognitives qu'on utilise. Et ça, ça peut changer, ça se travaille, ça se développe. Donc vraiment, si tu suis la recommandation qu'on te partage ici à travers ce podcast, mais que tu vas aussi faire tes propres recherches sur les travaux de Strycarczyk, mais vraiment, va chercher plus en profondeur. Et surtout, applique. Le laisse pas juste dans ta tête, applique. C'est vraiment très important.
Exact. Avant de finir ce podcast, j'ai envie de donner encore, parce que j'aime bien moi ces personnages inspirants qui sortent du cadre. J'ai envie de redonner un autre exemple. J'ai parlé de ce papy, justement, indien. Je pense aussi à Wang Deshun, alors, qui est devenu modèle, top modèle, à 80 ans. Et en fait, c'était un ancien comédien, en fait. Je crois qu'il faisait du théâtre, quelque chose comme ça.
C'est celui avec les cheveux longs, les cheveux blancs.
Ouais, exactement,
exact. Et en fait, je vois qui c'est.
À l'âge de 50 ans, il a commencé à se muscler, il a commencé à se préparer et tout ça parce qu'il voulait être dans ce domaine-là. Et il a commencé sa carrière de mode à l'âge de 80 ans en tant que top modèle. Et en fait, quand on lui posait la question, il dit, en fait, c'est juste que je me suis préparé 60 ans pour ce métier. Et tu vois, pour dire à quel point quand t'as une force mentale de ouf, il n'y a pas d'âge, en fait, pour réussir. J'entends des fois des gens qui me disent, non, je suis trop âgé pour ça. C'est pas vrai, en fait. T'es pas trop âgé pour ça. Certes, oui, on prend en considération ce facteur de l'âge. Tu sais, il y a toujours des possibilités de réaliser ce que tu veux réaliser. Mais c'est juste que faut prendre en considération, effectivement, ta situation et l'adapter. Mais ça va te demander, encore une fois, une force mentale. Parce que t'imagines celui-ci-là, à l'âge de 50 ans, il se met à faire de la musculation, à sculpter son corps pour se préparer à ça et il lâche rien jusqu'à l'âge de 80 ans. Faut une force mentale.
C'est génial.
De ouf, tu vois?
C'est génial.
C'est ça.
Et tu retrouves d'ailleurs ça beaucoup chez les acteurs. Alors peut-être un peu plus dans le cinéma américain.
Oui, ça
peut-être que dans le cinéma français. Mais tu as beaucoup d'acteurs qui ont commencé leur carrière et qui ont une carrière de dingue. Ouais. Mais ils ont commencé, ils avaient 60 ou 70 ans.
Ah oui, exact.
Et en fait, c'est des acteurs que tu regardes. Alors si tu es cinéphile et peut-être particulièrement sur le cinéma américain, tu regardes et en fait tu te dis en fait ce gars-là ou cette nana-là elle a une carrière derrière elle, elle en est arrivée là et tout, et en fait tu vas regarder leurs fiches et c'est comme ils ont fait plein de boulot avant, puis ils sont réveillés un matin à 50, 60 ans, ils ont dit ok, en fait moi mon rêve de devenir acteur c'est maintenant, donc je vais y aller, je vais le faire, et là ils décrochent un super rôle et tu te dis waouh, c'est un truc de fou. Alors oui, t'as les acteurs les bébés Disney qui commencent quand ils ont 3 ans et puis en fait ils sont accompagnés dans leur carrière et après ils rentrent dans le cinéma.
Il y en a beaucoup,
il y a tout un parcours
qui abandonnent avant.
Il y en a beaucoup qui arrivent, il y en a beaucoup qui abandonnent avant et il y en a qui débarquent vraiment où tu te dis ah mais en fait il faisait pas de cinéma avant ça. Ah en fait il était pas acteur avant ça, ou alors il a fait quelques petits rôles comme ça mais rien de notable, et en fait il arrive à ce stage là et puis cette personne là fait telle chose. Moi, je trouve ça super inspirant, quoi. C'est vraiment cool.
Ouais.
Et c'est là, comme tu le dis, où la force mentale, elle va jouer un rôle super important. Et si jamais toi qui nous écoutes, ta force mentale, elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, c'est pas grave. Pars de là où tu es. Par contre, applique les stratégies. Challenge-toi. Mets les choses en place. Et tu vas voir que dans un an, dans deux ans, dans 10 ans même, on s'en fout, tu vas te retrouver bien plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Juste parce que t'as pas lâché et que t'as continué et t'as mis en place des choses, t'as ajusté, tu t'es challengé et il va se passer vraiment plein de trucs. Donc, go là, go, 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 go.
C'est ça, go, go, go. Mais vraiment, là, tu parles d'acteur et ça me fait penser à celui qui avait joué dans Django, justement, Christopher Waltz. Je crois qu'il a commencé après l'âge de 40 ans, lui, son métier d'acteur. Ou encore une fois, un qui est hyper connu et celui-là, il est hyper inspirant, son parcours de ouf. Bryan Cranston, celui qui a joué dans Malcolm et Breaking Bad.
Oui, oui.
Et lui, il a commencé à l'âge de 40 ans. Et tu te dis, punaise, il sort de nulle part, c'est un extraterrestre, le gars. Et il a une carrière de malade, en fait.
Ouais, carrément. Ouais. Carrément.
vraiment.
Donc tout ça, c'est plein de petits exemples, de gros exemples, peu importe comment tu veux le nommer, mais c'est vraiment de comprendre que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde ne réalisera pas tout ce qu'il a envie de faire, parce que bah, parfois il y a un manque de moyens, parfois il y a un manque de temps, peu importe, mais au moins te mettre dans cette direction d'aller chercher les choses, parce que bah, comme on te le dit à chaque fois dans tous les podcasts, c'est que tu peux réaliser tout ce que tu veux, tu feras peut-être pas tout en même temps, mais tu peux pousser le plus loin possible sur le temps qui t'est disponible, et t'as besoin d'outils stables, c'est de fondations stables, solides pour le faire, et ton mental, bah, ça fait partie des fondations sur lesquelles tu dois travailler. Sans ça, tu vas pas aller très loin, malheureusement.
C'est ça, c'est vraiment une base, et c'est bon, je vais arrêter avec mes exemples, mais je pense aussi ne serait-ce qu'à mes grands-parents en Algérie, etc. Tu sais, ils ont tellement vécu là. C'est ça aussi le truc à comprendre, c'est que c'est vrai qu'on a été peut-être tellement couvés en Occident, tu vois, on a eu une vie quand même facile, on a un toit sur notre tête pour aller faire les courses ou aller manger. Ben en fait, on a à manger à gogo, il suffit d'aller juste au supermarché. Mais moi, je me rappelle mes grands-parents, j'ai une de mes grands-mères, que Dieu lui donne encore quelques années de vie, mais qui a plus de 90 ans. Et en fait, je me rappelle, par exemple, ma grand-mère, jusqu'à l'âge... Et peut-être qu'un jour, je devrais lui demander 4 conseils et on fera un podcast avec ça. Je vais essayer de lui demander comme cool. ça. Mais 4 conseils de ma grand-mère. Et en fait, je me rappelle, ma grand-mère, à l'âge de 70 ans encore, on avait une source d'eau en Algérie, là, un peu plus haut. Elle portait ses deux bidons, tu vois. Et tu sais, on avait beau lui dire non, tu le fais pas, elle le faisait. Elle sortait avec ses deux bidons d'eau. Elle allait les remplir à l'âge de 70 ans et elle revenait en fait à la maison avec deux gros bidons d'eau justement pour la consommation quoi. Et elle s'est pas arrêtée en fait. Et des fois je me dis waouh, tu sais à l'âge de 70 ans, elle le faisait même encore. Elle est âgée, elle est un peu fatiguée, mais des fois je me dis waouh quoi. Je vois très peu de personnes de cet âge-là. Qui font la même chose. Et pourquoi ? Parce que c'est l'adversité qui a forgé leur force mentale. Eux, ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça. Ils ont vécu cette adversité. Nous, bah nous, en fait, il faut qu'on se challenge, en fait. C'est à nous de créer des petits moments d'adversité pour pouvoir grandir.
Ouais. Et puis, du coup, éviter qu'il y en ait des plus gros qui se produisent.
C'est ça. Éviter qu'il y en ait des plus gros qui se produisent.
Parce que tu seras déjà armé, en fait, pour ce qui va suivre pour la suite. Dans le bon sens du terme.
Ouais.
Donc, super. Eh ben écoute, je pense qu'avec ce long podcast, parce que là, on s'est lâché aujourd'hui, Samir.
C'est un sujet qui nous passionne. Que veux-tu, Julien ?
Ben c'est ça. Dès qu'on parle de notre fonctionnement, de notre psychologie, de ce qu'on peut mettre en place pour justement se développer, ben on a toujours plein de choses à partager. Donc on espère en tout cas qu'avec ce podcast, tu as appris des nouvelles choses, t'as renforcé ce que tu connaissais déjà, et puis ça t'a donné des pistes sur les points de progression. Je vais te rappeler ici que ce podcast est sponsorisé par l'Institut Merlin, comme tu le sais, donc centre de formation d'excellence en coaching où on accompagne eh bien, les futurs coachs ou les coachs déjà certifiés et formés à exceller dans leur pratique pour faire une vraie différence au niveau de leurs interventions, développer une activité qui fonctionne et qui permet justement d'en vivre le plus possible, et puis bah, surtout accomplir cette mission qu'on se donne en tant que coach à travers le monde, d'aider les autres à progresser, à se connecter à leur meilleure version et à responsabiliser un peu plus les individus pour qu'on puisse, eh bien, peut-être au final, un jour, se passer de ce système qui nous empêche de vivre les choses comme on souhaiterait pourtant les vivre pour que le monde fasse un peu plus de sens et qu'il y ait plus de justice et d'équilibre à travers la planète. Ouais. Donc, on espère qu'on t'a inspiré avec tout ça. On compte sur toi pour nous aider à nous soutenir dans l'évolution de tout ce qu'on partage, de tout ce qu'on propose. Donc, tu t'abonnes, tu likes, tu mets 5 étoiles si tu peux sur l'application sur laquelle t'écoutes ce podcast. Sache que tu peux aller volontairement la mettre directement, par exemple, sur YouTube. Tu peux la mettre sur iTunes. Tu peux vraiment aller mettre des likes partout. Et puis, bah, t'abonner, faire passer le message autour de toi. Donc, vraiment, on compte sur toi et tu développes ta force mentale le plus possible.
Exactement. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.